bonjour à chacun. Je me prépare juste, je mets le micro et on est parti dans la continuité de ce que Dieu a commencé déjà à nous dire la semaine dernière. Je vais commencer par une petite histoire personnelle. Et je mets aussi mon chrono pour ne pas faire très long. Je vais commencer donc par une petite histoire personnelle. Beaucoup d'entre vous savent que je m'appelle Ricardo da Silva. Mais en fait, je ne m'appelle pas juste Ricardo da Silva. Je m'appelle Ricardo Emanuel Freitas da Silva. Des personnes qui m'aiment beaucoup ont bien souvent utilisé mes deux prénoms pour que je ne doute pas que c'était bien moi qui m'appelais. Ces personnes sont mes parents. Quand ma mère m'appelait par mes deux prénoms, d'une manière si spéciale, Ricardo Emanuel, je savais que c'était le moment de vraiment écouter. J'ai toujours été aimé par mes parents. Je n'ai jamais douté de l'amour de mes parents. Mais combien de fois j'ai mis leur patience à rude épreuve. Combien de fois j'ai obligé ma mère de m'appeler, parfois en criant, « Ricardo Emanuel !» Nous allons voir que Dieu, pendant un temps gravissime, où la situation semble irréversible, où la situation semble ne pas pouvoir changer. Parce qu'on a vu la semaine dernière, avec le début de la série sur le livre de Joël, dans la Bible, que le peuple de Dieu s'est éloigné de son Dieu. Il n'écoute plus son Dieu. Et Dieu a dû envoyer une sécheresse terrible, accompagnée ensuite d'une invasion massive de sauterelles qui ont détruit toute la végétation du pays. Le peuple est allé trop loin dans son péché. Et Dieu fait tout, absolument tout, pour réveiller son peuple. Il fait tout pour le faire revenir à lui, même jusqu'à la dernière heure. C'est un jour de l'Éternel. Et cette expression est souvent utilisée par les prophètes. Ceux que Dieu appelait avec un message pour son peuple ou pour les ennemis de son peuple. Et c'est un jour où, en fait, les prophètes parlaient d'un jour passé où Dieu est intervenu pour triompher du mal. Mais ces jours historiques où Dieu intervient de manière si spéciale, sont un prototype, une image du grand jour où Dieu appliquera sa justice parfaite. L'heure est grave pour le peuple de Dieu, mais voilà que dans sa bonté immense, Dieu, même pendant qu'il est déjà en train de discipliner son peuple, le punir, le corriger, il offre encore à cette nation une opportunité de se repentir, c'est-à-dire de se détourner de son péché pour se tourner vers son Dieu. Quelle grâce, quelle faveur imméritée, quel cadeau, quel amour. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Je vous invite à lire avec moi. Dans le livre de Joël au chapitre 2, à partir du verset 12, et c'est à la page 587 dans les Bibles qui sont à votre disposition. Et s'il vous plaît, laissez bien votre Bible ouverte. Page 587, chapitre 2 du livre de Joël, à partir du verset 12. Et le texte s'affichera aussi devant vous. Je vous invite donc à lire attentivement ce texte. Maintenant, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos habits, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et il regrette le mal qu'il envoie. Qui sait ? Peut-être regrettera-t-il encore et laissera-t-il après lui la bénédiction, des offrandes végétales et liquides pour l'Éternel votre Dieu. Sonnez de la trompette dans Sion, proclamez un jeûne, une assemblée solennelle, rassemblez le peuple, formez une sainte réunion, rassemblez les vieillards, rassemblez les enfants, même les nourrissons, que le jeune marié sorte de son foyer et la jeune mariée de sa chambre. Qu'entre le portique et l'autel, les prêtres pleurent, les serviteurs de l'Éternel, qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple, n'expose pas ton héritage à l'insulte, aux moqueries des nations. Pourquoi dira-t-on parmi les peuples, où est leur Dieu ? L'Éternel aime jalousement son pays et il épargne son peuple. L'Éternel répond et dit à son peuple, « Je vous enverrai le blé, le vin nouveau et l'huile. Vous en serez rassasiés et je ne vous exposerai plus à l'insulte parmi les nations. J'éloignerai de vous l'ennemi du nord, je le chasserai vers une terre aride et déserte, son avant-garde dans la mer morte et son arrière-garde dans la mer Méditerranée. Son infection se propagera, sa puanteur s'élèvera dans les airs parce qu'il a fait de grandes choses. Terre, n'aie pas peur, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes sauvages, n'ayez pas peur, car les plaines du désert reverdiront. Les arbres porteront leurs fruits, le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, habitants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie au moment voulu. Il vous enverra les premières et les dernières pluies, comme par le passé. Les airs se rempliront de blé et les cubes regorgeront de vin nouveau et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous rassasirez. Vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu qui aura fait pour vous des prodiges et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a pas d'autre, et mon peuple ne sera plus jamais dans la honte. Jusqu'ici, la Bible. Et comme on vient de le lire, Dieu appelle vraiment son peuple. Dieu appelle son peuple à revenir vers lui. Et il explique dans ce texte comment son peuple doit revenir vers lui, pourquoi son peuple doit revenir vers lui et quelles seront les conséquences si le peuple décide de revenir vers lui. Gardez bien vos Bibles ouvertes sur Joël 2, on va le parcourir ensemble. Commençons par répondre à la première question. Comment revenir vers Dieu ? En revenant à une relation personnelle avec Dieu. Dieu dit au verset 12, « Revenez à moi ». Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, vous vous rappelez peut-être qu'il n'y a plus d'offrande végétale dans le temple, qu'il n'y a plus d'offrande végétale et liquide dans le temple, comme on peut le voir au verset 9 du chapitre 1. Mais Dieu ne dit pas « Revenez au temple, apportez à nouveau les offrandes, venez au culte fidèlement, dimanche après dimanche. Retournez à une doctrine fidèle, à la Bible. » Dieu ne dit pas tout ça. Dieu ne dit pas de retourner à une doctrine fidèle de la Bible et de le dire dans le réseau social à la mode de l'époque. Et surtout, peut-être, pour faire bien, de mettre une citation d'un prédicateur de renommée internationale pour dire que ça y est, on est avec lui. Dieu ne dit pas tout ça. Peut-être que ces choses sont bonnes. Il y a des choses qui ne sont pas forcément mauvaises dans ce que j'ai dit. Mais Dieu dit, revenez à moi. Dieu s'intéresse plus à qui je suis dans le secret devant lui, à ses pieds, qu'à ce que je peux faire pour lui et devant tout le monde en public. On peut faire plein de choses, entre guillemets, pour la gloire de Dieu, en étant tellement loin de lui. On peut adorer Dieu avec nos bouches et ne pas le faire avec nos cœurs. Dieu est l'offensé qui se tourne vers nous, les offenseurs, et qui dit « Revenez à moi !» Quelle grâce ! C'est l'offensé qui va vers les offenseurs et qui dit « Revenez à moi !» Il sait que si on revient vraiment vers lui, le reste suivra. Dieu continue en disant à son peuple que ce retour doit être un retour profond. Revenez à moi de tout votre cœur, nous dit le verset 12. C'est un retour de tout notre cœur que Dieu veut. C'est une décision totale à vivre pour lui. Dieu ne désire pas juste une partie de notre vie. Dieu désire absolument tout de nous. Dieu ne veut pas juste un culte le dimanche, mais il veut que toute notre vie soit un culte pour lui. Dieu ne veut pas juste qu'on vienne vers lui quand tout va mal, même si c'est déjà très bien. Mais Dieu veut qu'on soit près de lui jour après jour. Dieu ne veut pas qu'on entende juste sa voix à des cultes communautaires, à des congrès, à des camps, surtout pendant l'été. Mais Dieu veut qu'on l'écoute encore et encore, jour après jour, nous dire « Revenez à moi !» Le retour en profondeur a lieu quand le peuple de Dieu s'humilie vraiment et continue ensuite dans l'humilité. Dieu veut aussi un retour avec zèle, un retour avec des jeunes. Verset 12, « Revenez à moi de tout votre cœur avec des jeunes. » Pourquoi Dieu veut que son peuple arrête de manger? Il est déjà dans la famine, non? Dieu n'attache pas de grande importance à des gestes extérieurs s'il ne montre pas une réalité intérieure au plus profond de nous-mêmes, dans nos cœurs. Mais Dieu veut que son peuple déclare devant lui qu'il a faim. Qu'il a faim de quoi? Pas du pain matériel, mais du pain spirituel. Il veut que son peuple dise et croie qu'il a vraiment besoin de lui. Il veut que son peuple dise « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Je pense que la pratique du jeûne, n'est pas une pratique dont nous sommes très habitués. En tout cas, moi, je ne l'ai pas souvent pratiquée. Aujourd'hui, nous devons jeûner parce que l'absence de Jésus est bien souvent insupportable dans ce monde quand nous réalisons que nous avons faim de lui. Jésus a dit, « Les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que le marié est avec eux ? Aussi longtemps que le marié est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront durant ces jours-là. » Jésus ici utilise une image. L'époux, c'est lui, et il s'attend à ce que tous ceux qui sont invités à la grande fête qui aura lieu un jour jeûnent en attendant. Il s'attend à ce que tous ceux qui ont entendu vraiment l'appel de Dieu jeûnent en attendant ce grand jour parce qu'il leur manque énormément. Le jeûne, selon Jésus, est quelque chose de normal pour ses disciples, s'ils ont vraiment faim de lui. Posons-nous vraiment la question. Avons-nous faim de Jésus-Christ plus que du pain dans nos assiettes? Avons-nous envie d'écouter l'invitation de Dieu pour vivre son projet? En voulons-nous inviter Dieu dans notre projet en croyant qu'il est mieux que celui de Dieu? Le jeûne n'est pas quelque chose qu'on fait pour changer la vie de Dieu. Quand le peuple se réunit dans sa présence, en prière et en jeûne, parfois le cours de l'histoire change. Parfois, après le jeûne, le peuple de Dieu vit vraiment ce que Dieu veut réellement qu'il vive. Des situations irréversibles changent, non pas parce que Dieu change, mais parce que le peuple de Dieu change dans sa présence. Le retour doit aussi se faire avec des pleurs et des lamentations. Verset 12, « Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. » Le peuple doit être triste, non pas parce qu'il a faim, qu'il n'a rien à manger, que leur animal de compagnie est décédé, ou parce qu'ils ont perdu un autre bien matériel qui n'est pas éternel. On peut bien évidemment pleurer pour tout ça. Et Dieu voit absolument tous nos pleurs. Mais Dieu aime quand son peuple pleure pour ses péchés et pas seulement pour les conséquences de leurs péchés, de ses péchés. Aujourd'hui, nous pouvons encore être plus tristes pour nos péchés et encore plus émerveillés de l'amour de Dieu parce que nous vivons dans une période magnifique de l'histoire. Nous vivons après la croix de Jésus-Christ. Comment ne pas pleurer aujourd'hui quand nous réalisons vraiment dans la présence de Dieu que pour des pécheurs comme moi et vous, Jésus-Christ a été cloué sur une croix. Si je ne pleure pas assez, c'est parce que mon cœur est encore bien souvent trop dur. Et ça montre une chose. Je dois revenir chaque jour vers Dieu. Enfin, le retour doit être un retour sincère. Lisons le verset 13. Déchirez votre cœur et non vos habits. Déchirer ses vêtements à l'époque était un signe de deuil, un signe de tristesse. Mais Dieu ne veut pas de ce signe s'il ne montre rien au plus profond d'eux-mêmes. Dieu ne veut pas seulement qu'ils déchirent leurs vêtements, mais qu'ils déchirent avant tout leur cœur. Dieu veut qu'on soit en public ce qu'on est en secret devant lui. Dieu veut qu'on s'humilie et qu'on continue dans l'humilité. Dieu veut un retour sincère. Nous avons vu comment revenir vers Dieu. Il nous montre qu'on doit revenir vers lui en profondeur, avec zèle, avec tristesse, à cause de notre péché et pas seulement pour les conséquences de notre péché. Et que tout cela doit être bien évidemment fait avec une grande sincérité. Et maintenant, nous allons voir pourquoi revenir vers Dieu. La réponse, nous l'avons chantée, et la réponse, nous pouvons la trouver au verset 13. Ça commence par un quart, et dans la Bible, les quarts sont parfois très importants. Car il fait grâce, verset 13, il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et il regrette le mal qu'il envoie. Nous devons venir vers Dieu, non pas juste pour ce qu'il nous donne, mais avant tout pour ce qu'il est. Nous venons pas vers Dieu juste pour éviter le châtiment, juste pour avoir son pardon, juste pour avoir ses bénédictions. Non, Dieu veut qu'on vienne vers lui avant tout pour ce qu'il est. Nous devons venir vers lui parce que il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté. Aujourd'hui, nous pouvons encore mieux comprendre tout ça. Regardons à la croix de Jésus-Christ. Dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, à partir du verset 20, nous pouvons lire « Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. » Voilà le message principal de l'Église. Entendons et proclamons la bonne nouvelle qui résonne depuis la croix. Pour nous aujourd'hui, les choses sont encore beaucoup plus claires que pour le peuple qui entendait le message de Joël. La justice de Dieu l'oblige et l'obligera à déverser une colère juste sur le pécheur qui ne se repent pas, et sa bonté à gracier le pécheur qui se tourne vers lui, pour lequel Jésus-Christ est venu dans ce monde pour payer sa condamnation à la croix. Dieu veut faire grâce. Il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et il regrette le mal qu'il envoie. Entendez-vous son appel? Entendons-nous son appel aujourd'hui? Peut-être que dans vos versions, au verset 13, c'est dit que Dieu se repent. Mais Dieu ne se repent pas comme les hommes. En fait, Dieu ne change pas dans son être. Pour faire simple, Dieu châtie parce que sa justice l'exige, mais il préfère bénir que punir et discipliner. Dieu n'a pas de la culpabilité morale pour la discipline qu'il applique à son peuple. Cette discipline est tout simplement juste. Mais il est sûrement triste par les conséquences de son châtiment, et il arrêtera de châtier son peuple si son peuple se repent. Dieu ne corrige jamais son peuple pour le détruire, mais pour le restaurer, le bénir. Tout le peuple est invité à venir vers Dieu, parce que Dieu est riche en bonté et lent à la colère. Au verset 13, on voit que les vieillards, ceux qui connaissent probablement mieux Dieu grâce à leur expérience, grâce à leurs années d'expérience, et bien les vieillards, ils devaient montrer l'exemple. Ils devaient montrer l'exemple au niveau de la repentance. Les enfants et même les nourrissons devraient être là aussi. Les enfants doivent comprendre qu'ils sont solidaires avec tout le peuple de Dieu pour le péché du peuple. Les enfants apprennent beaucoup en nous observant. Et puis, imaginez ce jour-là, les parents qui voient leurs enfants et les nourrissons ce jour-là. Imaginez ce jour-là, les faire regarder les enfants et leur faire comprendre que les conséquences de leur péché peuvent avoir des terribles conséquences sur les générations juste après. Dieu veut faire comprendre à quel point la situation est grave. Si Dieu ne manifeste pas sa bonté, les générations qui nous suivent connaîtront des conséquences terribles. Heureusement que Dieu est lent à la colère et riche en bonté. Regardez le verset 14, c'est écrit « Qui sait peut-être, regrettera-t-il encore et laissera-t-il après lui la bénédiction ?» Le qui sait ici, montre qu'en fait, Dieu ne nous pardonne pas parce qu'on se repent. Notre repentance ne mérite pas la bonté de Dieu. Tout, absolument tout, est un fruit de sa grâce. Tout, absolument tout, est la bonté de Dieu. Dieu nous pardonne parce qu'il est bon. Nous fêtons cette année 100 ans. 100 ans que l'Église existe. Et pendant cette année, faisons résonner tout ce qu'on a de nos cœurs. Adorons Dieu pour sa bonté. Si nous sommes là, et si nous serons là encore demain. C'est parce que Dieu est bon, parce que Dieu est fidèle. Nous, nous sommes souvent infidèles. La situation est tellement grave, tellement grave, que les jeunes mariés sont aussi invités. Dans la Bible, dans le livre de Deutéronome au chapitre 24, verset 5, on peut lire « Lorsqu'un homme sera jeune marié, il n'ira pas à l'armée et on ne lui imposera aucune charge. Il sera excepté pour raison de famille pendant un an et il réjouira la femme qu'il a épousée. » Mais là, c'est un temps de pleurs. C'est un temps où, en fait, l'ensemble du peuple de Dieu doit pleurer pour ses péchés plutôt que de se réjouir, même des joies du début de mariage, de la vie à deux. C'est un temps où tout le monde est invité à se repentir devant Dieu. Enfin, on peut voir que les prêtres, eux, ils doivent pleurer. Et pleurer vraiment. C'était sûrement l'autorité la plus élevée à l'époque, surtout si c'est pendant la période du roi Joas qui était mineur. Il a été placé sur le trône quand il avait juste 7 ans. Selon le livre de 2 Rois, chapitre 11 et, chapitre 11 et 12, et le livre de 2 Chroniques, chapitre 23 et 24. En attendant sa majorité, c'est le grand prêtre, Jéhoiada, qui était régent du royaume, les leaders du peuple, les responsables du peuple devaient vraiment pleurer. Ils devaient dire en pleurs, selon le verset 17, « Éternel, épargne ton peuple, n'expose pas ton héritage à l'insulte, aux moqueries des nations. Pourquoi dira-t-on parmi les peuples, où est leur Dieu ?» La situation est vraiment grave. Mais Dieu, jusqu'à la dernière heure, appelle encore son peuple. Particulièrement les leaders, les responsables de l'Église de Dieu, mais aussi tous les membres de l'Église de Dieu, doivent prier comme Jésus nous a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que le nom de Dieu soit honoré. C'est ça que ça veut dire sanctifié. Que ceux qui entourent le peuple de Dieu n'aient pas une vision mauvaise de Dieu à cause du comportement mauvais du peuple de Dieu. Cette prière doit être la nôtre. Depuis bien longtemps, Dieu s'est choisi un peuple. Il s'est choisi un peuple pour se faire connaître. Mais si le peuple de Dieu n'honore plus son Dieu, comment Dieu sera connu ? Jusqu'aux extrémités de la terre. Tous dans le peuple de Dieu, sans exception, doivent revenir vers Dieu. Parce que Dieu fait grâce, il est riche en bonté. Mais aussi tout simplement parce que Dieu est un Dieu d'alliance. Regardez le verset 18. L'Éternel aime jalousement son peuple et il épargne son peuple. Quand nous péchons, si nous sommes enfants de Dieu, nous restons enfants de Dieu. Rien ni personne ne peut nous éloigner de l'amour de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, Dieu garde son alliance envers son peuple. Dieu aime profondément son peuple. Et rien de ce qui nous arrive ne doit remettre en question cette vérité. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 12, versets 6 et 7, on peut lire « Le Seigneur corrige celui qu'il aime, et il punit tous ceux qui le reconnaissent comme ses fils. Supportez la correction, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas ?» Mais dans l'Évangile, selon Luc, au chapitre 13, versets 4 et 5, Jésus dit « Ces 18 personnes sur qui la tour de Siloé est tombée et qu'elle a tuée, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis, mais si vous ne changez pas d'attitude, vous périrez tous de même. » Il faut bien comprendre que la souffrance est la conséquence du péché global de l'humanité. Mais ceux qui souffrent de quelque chose en particulier, ce n'est pas forcément parce qu'ils sont plus pécheurs aux plus coupables. Il est possible que parfois, dans son amour infini, châtie pour réveiller un monde sourd et parfois même son peuple. Comme on peut le voir ici dans le livre de Joël. Hier, j'ai lu dans Le Monde, nous avons quelques semaines pour contrôler l'invasion de criquets pèlerins dans la Corne de l'Afrique. Est-ce que les personnes sur place, là-bas, et peut-être même les membres du peuple de Dieu, là-bas, ont commis un péché en particulier? Je ne suis pas prophète. Je ne peux pas répondre à la question. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que nous ici, si nous ne nous repentons pas, si nous ne revenons pas à Dieu, nous connaîtrons quelque chose de beaucoup plus terrible qu'une invasion de sauterelles de criquets un jour. Dans le dernier livre de la Bible, dans l'Apocalypse chapitre 6, versets 16 et 17, on peut lire que certains un jour vont dire aux montagnes et aux rochers, ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous, loin de celui qui est assis sur le trône et loin de la colère de l'agneau. En effet, le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut résister ?» L'agneau, c'est Jésus-Christ ici. Je ne sais pas vous, mais ça me rappelle un petit texte que Stéphane a lu juste avant que je commence. Ça me rappelle ce jour historique que Joël décrit et qui est l'image de ce grand jour qui va un jour arriver. Joël le disait déjà si bien dans Joël 2, verset 11. La meilleure chose pour nous, quand nous apprenons quelque chose de terrible, c'est de nous repentir devant Dieu. Dieu est sûrement en train d'essayer de réveiller un monde sourd et parfois même son peuple. Le plus grand miracle, ce n'est pas forcément que Dieu guérisse, que Dieu change la situation, mais le plus grand miracle est encore que Dieu, aujourd'hui, même jusqu'à la dernière heure, fait encore tout, absolument tout, pour réveiller un monde et dire « Revenez, revenez, revenez à moi ». Dieu, ce qu'on peut dire, c'est que si nous venons vers lui, si nous sommes dans sa main, nous ne nous rajoutons pas plus de souffrance. Faisons-lui confiance. Un jour, Dieu mettra fin à la souffrance. L'histoire est entre les mains d'un Dieu juste. Les conséquences du retour du peuple envers Dieu sont juste magnifiques. Selon les versets 19 et 20, les ennemis du peuple de Dieu connaîtront une grande défaite. Les sauterelles et même, selon certains commentateurs, des armées ennemies qui étaient déjà prêtes à détruire le peuple de Dieu, ces ennemis-là qui étaient déjà prêts peut-être à envahir le peuple de Dieu, il ne va rien se passer si le peuple se repentit. Tous les ennemis connaîtront une grande défaite. Dieu restaurera aussi les terres dévastées, comme on peut le voir au verset 21-25. Au lieu de la sécheresse, il y aura de super pluies. Au lieu de la faim, ils mangeront en abondance. Les animaux auront aussi à nouveau à manger. Il y aura à nouveau de l'herbe pour les animaux. Mais surtout, et là, écoutez bien, il y aura une présence manifeste de Dieu parmi son peuple. Dieu est présent partout, on le sait. Mais généralement, quand la présence de Dieu devient manifeste, les cœurs du peuple de Dieu se déchirent. Et ensuite, il y a une grande joie. Il y a des pleurs et de la joie. Les choses qui parfois nous paraissent contradictoires, mais tout cela doit être bien présent parmi le peuple de Dieu. Quel grand Dieu nous avons! Quel sauveur! Le plus grand ennemi du peuple de Dieu, c'est son péché. Et la plus grande bénédiction, ce n'est pas une bénédiction matérielle de la part de Dieu, mais c'est Dieu lui-même. Ne ratez surtout pas la suite. Ne ratez surtout pas la suite, parce qu'on verra une promesse magnifique. Dieu promet de déverser son esprit parmi son peuple. Quelle grande bénédiction, la présence manifeste de Dieu parmi son peuple. Dieu est notre plus grande bénédiction sur cette terre. J'arrive à la conclusion et j'aimerais vous dire que le message de Joël est tellement actuel pour nous. Dieu nous appelle maintenant, collectivement et individuellement, Église de Grenoble, à nous repentir. Qu'on soit jeune ou plus âgé, et quel que soit le service qu'on fait parmi son peuple, Dieu nous appelle tous, sans exception, par tous nos prénoms et par tous nos noms, si nous en avons plusieurs. Dieu ne veut pas qu'on ait un quelconque doute. Dieu invite aussi tous ceux qui ne sont pas encore chrétiens à écouter cet appel plein d'amour de la part de Dieu. Si nous entendons la voix de Dieu ce matin, mais ne tardons plus, ne tardons plus. Dieu a déjà été assez patient. Il m'a appelé plein de fois pendant la préparation de cette prédication. Et il m'appelle encore maintenant, maintenant que je suis avec son peuple. Il m'appelle, Ricardo Emmanuel Freitas da Silva, reviens à moi. Aujourd'hui, Dieu nous dit, maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations, déchirez votre cœur et non vos habits, et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il fait grâce, il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et il regrette le mal qu'il envoie. Je vous invite à un temps de repentance, où chacun, devant Dieu, peut se détourner de son péché et se tourner vers ce grand Dieu pour être complètement, complètement pardonné.